Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Ça n'est pas un mystère, les multiples acteurs des nouvelles technologies s'intéressent de près à ce qui se passe dans nos corps. De très très près même. Tellement qu'ils ne cessent de nous inviter à rentrer dans l'un ou l'autre des appareils qui désormais peuplent notre quotidien. De plus en plus d'infos censées nous aider à mieux garder la main sur notre santé, notre sommeil, notre alimentation. Bref, sur à peu près tout ce qui rentre ou sort de notre corps. Tout ou presque, car un domaine au moins est à la traîne de cette explosion connectée, les règles, les menstruations, qui concernent pourtant une bonne moitié de la population terrestre. Délaissée, elle commence petit à petit à retenir l'attention du monde de la tech, ce qui ouvre par ailleurs tout un autre champ de questionnement. Que deviennent ces données ultra sensibles une fois confiées à une appli ? À quoi ressemble le paysage de la menstruation connectée ? Et encore et toujours, pourquoi les règles sont-elles systématiquement les grandes oubliées de l'innovation ? Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Pour répondre à toutes ces questions, je me suis tourné vers quelqu'un qui suit ça au quotidien. Ma consoeur Lucie Ronfaux, journaliste au Figaro, spécialiste des nouvelles technologies, et particulièrement attentive au sujet des règles à l'ère du tout numérique, sujet sur lequel elle tient sur Twitter une veille régulière, et pour lequel elle a inventé un terme que vous allez entendre de nombreuses fois dans cet épisode, la menstrutech. Et donc j'ai démarré par une question toute bête, c'est quoi la menstrutech ?
La menstrutech, ce sont des applications mobiles qui servent à suivre les menstruations, donc les règles.
À quoi ça ressemble le paysage donc, de cette menstrutech en 2018 ?
Alors, il est assez diversifié. Donc, on a en gros 4-5 gros acteurs qui se partagent ce marché. Alors, il y a par exemple Clou, qui est une entreprise qui est allemande, qui a été fondée par une Danoise. Il y a aussi Flo, Glow, Eve, qui sont des entreprises américaines qui ont été fondées. L'une d'entre elles a été fondée par le cofondateur de PayPal. Et il y a Maya, qui est l'application indienne de menstrutech. Donc, ça c'est un peu les gros acteurs.
Les gros acteurs, oui.
Et ensuite, on a les GAFA hein, qui se sont mis petit à petit et assez lentement au sujet. Donc ça va être l'application de santé d'Apple par exemple qui a une option de menstrutech, l'application de santé de Google en a une aussi, les bracelets connectés Fitbit, etc. etc.
Comment elle fonctionne ? Est-ce qu'on peut expliquer un peu sur quel type de renseignements, quel type de données elle réclame ces applis pour fonctionner ?
Oui, alors une application de menstrutech, on s'en sert de différentes manières. Déjà pour se souvenir qu'on a ses règles. Pour les personnes qui nous écoutent qui ont leurs règles, on sait que c'est pas toujours évident de se rappeler quand on va les avoir. Donc en gros, quand on télécharge une application de menstrutech, on nous demande d'abord la dernière date de nos règles. Donc je vais dire j'ai eu mes règles le 5 décembre la dernière fois. L'algorithme va rajouter 28 jours qui est la durée moyenne d'un cycle menstruel. Et donc ensuite je vais donner différents types de données pour que les algorithmes affinent un petit peu leurs prédictions parce que toutes les femmes et tous les hommes d'ailleurs qui ont leurs règles n'ont pas forcément leurs règles au même moment. Donc je vais dire par exemple quand j'ai des crampes, quand je vais avoir des relations sexuelles, quand je vais avoir mal au sein, quand c'est beaucoup autour de la douleur, mais aussi autour de l'état de santé. Est-ce que mes cheveux sont brillants ou pas ? Ça va assez finement. Et donc ensuite, l'application est non seulement capable de me dire à peu près quand est-ce que je vais avoir mes règles, mais aussi quand est ma fenêtre de fécondité.
Oui, parce qu'en fait, c'est finalement assez lié, en tout cas dans la communication de ces applis, c'est beaucoup vendu sous l'angle de la fertilité.
Voilà, alors en fait, la menstrutech s'est d'abord développée autour effectivement de tout ce qui est procréation, aide à la grossesse, parce que c'est un marché qui est extrêmement rentable. Les femmes enceintes, ça dépense de l'argent. et les femmes qui essaient d'être enceintes, ça dépense de l'argent aussi. Donc ces applications, bah, typiquement Glow, qui est l'une des grosses applications. Glow, en fait, c'est parce que c'est le pregnancy glow.
La brillance.
Je brille parce que je suis enceinte et que je suis heureuse. Voilà. Donc c'est extrêmement cliché, hein, on va pas se mentir. Donc Glow, en fait, l'idée au départ, c'était de dire, bah voilà, on va faire une application pour aider les femmes à suivre un petit peu leur cycle menstruel et voir quand est-ce qu'elles ovulent et donc à quel moment d'avoir des relations sexuelles pour avoir des enfants. Et ensuite, si j'ai un enfant, je peux télécharger l'application enfant qui a été développée par Glow également. Donc c'est tout un écosystème.
C'est tout un package.
Alors après, il y a d'autres applications, typiquement Clou, qui sont des applications qui s'adressent plutôt à un public plus jeune et qui, elles, sont plus en recherche de connaissances sur leur corps et qui vont notamment s'en servir, bah, déjà, pour comprendre, enfin c'est bête, hein, on l'apprend, le cycle, on apprend ça à l'école, mais on a tendance à oublier un petit peu comment ça fonctionne, pourquoi est-ce que j'ai ce genre de douleur, quand est-ce que je dois faire attention à pas oublier ma pilule, ce genre de choses. Et il y a une troisième catégorie qui, celle-là est un peu plus compliquée, qui est, sont les applications qui cherchent en fait à éviter la contraception. Donc c'est des applications comme Natural Cycles, qui est une entreprise suédoise qui en fait vend un objet connecté qui est un thermomètre connecté. Et en fait, c'est un peu le pendant 2.0 de la méthode Ogino, hein, donc de température, savoir quand est-ce que je peux faire l'amour ou pas pour ne pas avoir d'enfant. Et cette application vous sert en fait à repérer quand est-ce que vous ne devez pas avoir de rapport sexuel non protégé. Il faut savoir que Natural Cycle aux États-Unis a été reconnu comme un moyen de contraception
par la FDA, la Food Drug Administration, qui autorise la mise en place à la fois des médicaments et des produits alimentaires.
Voilà, exactement. Avec malheureusement un taux de réussite en fait assez bas. Hein. Il y a eu beaucoup de cas en fait de femmes qui sont tombées enceintes quand même malgré l'utilisation de ce genre d'application. Et d'ailleurs, à part Natural Cycles, à part des applications, mentionnent bien pour éviter les procès, hein, notamment, nous ne sommes pas un moyen de contraception. Nous sommes là pour vous donner des informations, mais comptez pas sur nous pour vous dire. Et c'est ce qui est logique aussi. Hein, on parle d'algorithme, on parle d'une machine, on parle d'un truc dans un smartphone. Il n'y a pas que vous, mais il n'y a qu'un médecin qui peut vous dire vraiment quand est-ce que vous pouvez ou pas tomber enceinte.
Surtout qu'il y a eu, pour le coup, des actions en justice. Je crois que c'est le cas notamment dans des pays du Nord.
Oui, sur Natural Cycles, il y a eu des actions en justice de femmes qui, justement, se sont retrouvées à avoir des grossesses indésirées. Il y a Le Guardian qui a publié un article assez triste d'une nana qui explique justement qu'elle a utilisé cette application et qu'elle a dû avorter parce qu'elle est tombée enceinte et qu'elle ne le souhaitait pas. Et elle explique qu'elle se sent bête. Parce qu'en fait, elle a une phrase que je trouve assez forte qui dit en fait, j'ai fait comme tout le reste de ma vie, j'ai confié des données intimes dans une boîte noire que je ne comprenais pas et j'ai cru que ça allait régler tous mes problèmes. Et c'est vrai qu'au final, c'est un peu le danger, l'enjeu négatif, on va dire, de ces applications, c'est que ces applications fonctionnent sur des algorithmes et comme tous les algorithmes de toutes les entreprises en ligne qu'on utilise, on ne les comprend pas en fait. Et surtout là, on parle de données extrêmement intimes qui sont relatives à notre corps et notre corps, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas encore connecté. Moi, j'ai pas de capteur dans mon utérus qui pourrait informer mon portable quand est-ce que je vais tomber enceinte. Donc en fait, mon smartphone a besoin de données. Je dois lui produire de la donnée pour qu'il comprenne quelque chose dans mon corps, mais ça ne dépend que de moi. Et par ailleurs, peut-être que mes données, je les donne pas de manière assez précise, quoi.
Et justement, on arrive à un sujet qui est extrêmement sensible lorsqu'on parle de santé connectée. Ces données qu'on donne, vous l'avez dit, sont sensibles. Qu'est-ce qu'elles en font, ces applications ?
Alors, ça dépend des applications.
J'imagine.
Et il y a un peu un grand flou sur le sujet. Parce que de la même manière.
C'est toujours l'angle mort de la nouvelle technologie.
Voilà, exactement. De la même manière qu'on ne sait pas trop ce que Facebook fait de nos données, on ne sait pas trop ce que ces applications font de ces données. Sauf que ces données, c'est encore plus intime en tout cas que ce que Facebook peut savoir de nous. Donc, alors, il y a des applications qui essayent d'être un peu plus claires sur leurs exploitations. Donc, typiquement, Clou dit assez clairement que les données sont exploitées à des fins de recherche médicale. Donc, Clou, en fait, son modèle économique, c'est notamment le fait de collaborer avec des grandes universités, de leur donner un pool de données anonymisées, mais qui viennent quand même de nous, hein, des utilisatrices. Et ensuite, les universités font leurs recherches comme elles l'entendent. Alors ça, entre parenthèses, ça pose un problème parce que on n'a pas vraiment d'études sur les utilisateurs et les utilisatrices de ce genre d'application, mais on peut supposer que en fait, cette audience est plutôt jeune, plutôt CSP+, plutôt dans des pays développés, parce qu'ils ont accès à des smartphones qui ont des capacités importantes, etc. Donc,
ça crée un biais sociologique important.
Ça crée un clair biais dans les données, parce que ce n'est pas des données qui sont récoltées via des méthodes de recherche classiques, entre guillemets. À ce sujet, je vous recommande le travail de la chercheuse Marion Coville, avec qui je travaille beaucoup sur le sujet, qui écrit régulièrement là-dessus. produire de la donnée médicale sur la base d'une audience, d'une application qui est clairement destinée à un segment assez réduit de la population, c'est pas forcément une très bonne idée. Non. Ça, c'est le premier aspect. Ensuite, eh ben, y a bêtement la publicité. Parce que le modèle économique le plus important sur Internet actuellement, c'est la pub, hein, mais c'est le cas pour tout. Or, la pub relative à votre utérus, ça va beaucoup tourner autour de l'enfant, en fait, hein, de l'enfant qui pourrait être dans votre corps. Alors, il y a un article que je cite souvent qui a été écrit par une journaliste du New York Times qui avait fait un édito qui s'intitulait « L'Internet pense que je suis toujours enceinte ».
Oui.
Et en fait, cette femme, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a utilisé une application de Menstrutech. Elle ne cite pas la marque. On peut supposer que c'est une marque américaine, mais on n'est pas trop sûr. Et en gros, elle est tombée enceinte et elle voulait un enfant. Donc, elle se servait de ces applications pour aider à la procréation. Donc, elle tombe enceinte, elle le dit à l'application. L'application lui dit « Félicitations, télécharge l'application destinée aux femmes enceintes ». Elle le fait. Bon. 3 mois plus tard, cette femme fait une fausse couche, qui est un événement extrêmement fréquent quand on est enceinte. Sa réaction est assez naturelle, elle supprime l'application qui était destinée au suivi de sa grossesse et puis elle fait son processus de deuil comme elle l'entend. 6 mois plus tard, donc 6 mois après la fausse couche et 9 mois après être tombée enceinte, elle reçoit chez elle un colis de la part de l'application et de ses partenaires avec genre des couches, du lait en poudre et qui dit « Félicitations pour votre enfant, bienvenue dans ce monde et puis surtout utilisez les produits de nos partenaires ». En fait, ce qui s'est passé, c'est que cette femme, en créant son compte sur l'application destinée aux femmes enceintes, en fait, elle a dit à l'entreprise « je suis enceinte ». Et parce qu'elle n'a pas produit une donnée supplémentaire qui aurait dit « en fait, non, je ne le suis plus », donc l'application est partie du principe qu'elle était toujours enceinte. Mmh. Et donc, les produits publicitaires liés à ça, on continue à vivre, quoi. Donc ça, c'est un exemple qui est un peu marquant, mais qui est assez vrai. Et que, encore une fois, les données relatives au corps sont encore plus importantes. Enfin, en tout cas, tout aussi importantes que les données relatives à vos études, vos goûts culturels, enfin tout ce que Internet peut déjà récupérer sur nous. Et moi, ma théorie, c'est ce qui est en train de se passer avec la Menstrutech, c'est ce qui va se passer avec la santé connectée en général. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup parler du sujet et que c'est pas qu'un sujet qui concerne que les femmes et les hommes qui ont leurs règles, ça concerne tout le monde en fait, parce que là ce qui est en train de se passer sans qu'on soit trop au courant, c'est ce qui pourrait très bien se passer pour toutes les données que votre corps peut produire, hein. Donc là ça peut aller loin, hein. Ça peut être, je sais pas moi, sur votre arthrose, sur vos problèmes cardiaques, etc., etc.
Il y a un élément qu'on a abordé au tout début de notre discussion, c'est le temps qu'ont mis notamment les grandes entreprises du secteur, donc ce qu'on appelle les GAFA de manière générale, à s'emparer de ce sujet, alors que pour le coup la santé connectée c'était quelque chose sur lequel ils ont capitalisé assez rapidement, notamment Apple sur l'iPhone. Qu'est-ce qui a fait, même si j'imagine un petit peu la réponse, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mis autant de temps à s'y intéresser?
Ouais, donc il y a un vrai enjeu féministe sur la Menstrutech, c'est-à-dire que alors les grosses applications dont je vous ai parlé tout à l'heure sont nées à peu près entre 2012 et 2013. En 2014, c'est une histoire que j'aime bien raconter, en 2014 Apple lance Health, sa grande application dédiée à la santé. Et cette application permettait de repérer plein de données. Typiquement, on pouvait dire combien de fois par jour on allait aux toilettes.
Oui.
Ce qui est une donnée importante dans la santé, hein. C'est pas drôle, hein. c'est important. Mais on pouvait vraiment...
Même ça peut être fondamental.
Ça peut être fondamental. Donc il y avait des données vraiment pour tout, sauf pour les règles. Il n'y avait aucune option qui permettait de dire « tous les mois, je saigne ». Bon, ce qui est quand même une donnée importante et qui concerne à la louche, hein,
la moitié de la population.
Pourquoi est-ce que les grandes entreprises brillantes, hein, pourtant, ne s'intéressent pas aux règles? C'est parce que ces grandes entreprises de la Silicon Valley, pour le dire vite, n'emploient pas assez de femmes, en fait, et qu'il y a des gros problèmes de diversité au sein des ingénieurs et au sein, en général, des employés des GAFA, et qui rejaillissent, en fait, sur la qualité de leurs produits. C'est-à-dire que ce qui est quand même fou, c'est que cette application... Alors, c'est l'exemple d'Apple, mais Apple n'est pas le seul, hein. Tous les grands géants de la santé connectée n'y ont pas pensé. Hein. On a une entreprise qui réunit ses ingénieurs, on imagine, pendant 1 an, 2 ans, tu vois, pour faire un produit quand même de qualité. Et ils sont même pas, il y a même pas une personne capable de dire, au fait, il y a quand même des gens qui ont leurs règles une fois par mois. Ce serait peut-être bien de mettre, ne serait-ce qu'une petite option pour dire, j'ai mes règles, et j'aimerais m'en souvenir, quoi. Donc ça, c'est un exemple typique pour lequel la diversité dans les entreprises de nouvelles technologies, c'est pas qu'une question de morale. Alors c'en est une, hein. Il est pour moi immoral de ne pas employer assez de femmes et assez de gens de couleur chez les GAFA. Mais c'est aussi une question de qualité des produits, en fait. Et là, c'est, c'en est la preuve. Alors, ils se sont rattrapés. Lentement, donc Apple, un an plus tard, a dit « Oh, on est vraiment désolé, voilà, voici un petit outil pour vos règles ». Pareil, Google s'y est mis après. J'ai cité Fitbit, qui fait des bracelets connectés, qui, pareil, propose une option qui est assez mal fichue, d'ailleurs, sur le suivi des règles. Donc, ils s'y mettent petit à petit, mais il y a eu clairement un retard sur le sujet. Et qu'on peut relier aussi au tabou général sur le corps de la femme sur Internet. Hein. Alors, c'est peut-être allé un petit peu loin, mais typiquement, le fait qu'on n'ait pas le droit de montrer des seins de femmes sur Facebook, YouTube, toutes les grandes applications, bientôt Tumblr, mais qu'on puisse montrer des poitrines d'hommes, le fait qu'une vidéo sur YouTube parlant d'érection, ça passe, mais une vidéo sur YouTube qui parle de règles, c'est considéré comme pas approprié pour les annonceurs. Ben, ça, typiquement, ça rentre dans un même tout, qui est que le corps de la femme est un peu ignoré, à la fois par les ingénieurs, mais aussi par leurs algos.
Il y a une autre problématique dans ce paysage économique de la monstrutech, c'est la problématique du pinkwashing. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu ce que c'est pour ceux qui découvriraient ne serait-ce que l'existence de ce terme ?
Bien sûr. Alors, le pinkwashing, comme son nom l'indique en anglais, c'est le fait de mettre du rose partout. Hein. C'est-à-dire que quand vous téléchargez, si vous tapez règles, suivi de règles sur Google Play ou sur l'App Store d'Apple, vous verrez que en fait, toutes ces applications elles sont roses, la plupart. Hein. Elles sont rouges à la rigueur si elles veulent pas original, mais c'est beaucoup autour des thèmes des papillons, vraiment en mode les abeilles butinent les fleurs. Hein, c'est assez. C'est très infantilisant. On est vraiment à comment est-ce que je fais les bébés, comment est-ce qu'on explique ça aux enfants, mais on donne ça aux adultes, quoi. Donc, il y a eu des études qui ont été faites sur le fait que, effectivement, ces applications reproduisent ces modèles très roses. Alors, il y a Clou qui essaye de faire un truc un peu différent. Mais alors, Clou, eux, ils font un truc différent qui sont, on va pas appeler ça du science washing, ce serait un peu méchant, mais en tout cas, eux, ils opposent le rose à un design très neutre, très gris, avec des petites éprouvettes partout, etc. Et donc, et ça, c'est aussi une manière de vous faire confiance, de vous donner confiance dans les algorithmes, hein,
oui,
en
apportant une espèce de caution scientifique, voilà. En tout cas visuelle.
Visuelle, mais dont on n'est pas plus sûr en fait qu'au final que sur les applications roses. Hein, mais c'est un peu, c'est une astuce de design comme une autre. Et alors après, il y a aussi d'autres applications, typiquement Eve, qui est une application qui est destinée plutôt aux jeunes filles. Alors elles sont pas roses, mais elles sont noires. Donc là, c'est plutôt en mode cosmopolitane. Donc très, il y a des néons partout. On veut parler aux jeunes, etc. Sauf que ça s'accompagne d'un discours extrêmement très cosmo, donc ces applications, elles aiment bien avoir une petite partie médiatique à côté, donc c'est-à-dire proposer des questions-réponses généralement sur comment fonctionne ton corps, etc. Donc ça va du très factuel, hein, combien de temps dure généralement un cycle menstruel, etc. à dans le cas des applications comme Eve, à comment bien sucer ton mec, je sais pas si on a le droit de le dire ici, comment bien sucer ton mec pour lui faire plaisir. Donc là, on arrive dans des clichés hétérosexuels, aussi cisgenre, etc. Enfin bon, c'est...
Justement, une autre problématique, ça, on va dire, c'est en lien avec ce pinkwashing, c'est qu'on a l'impression que certaines de ces applis reproduisent finalement les vieux schémas hétéronormatifs, on va dire, pour le dire rapidement, de la publicité à l'ancienne, où on se rappelle des règles qui étaient bleues à la télévision, où pareil, il y avait une sorte d'invisibilisation comme ça du corps de la femme et une forme de recours systématique aux clichés. On a l'impression que ces applis-là, mine de rien, toute innovante qu'elle soit, reproduit finalement des schémas qui sont assez poussiéreux.
Ouais, il y a une vraie question en fait de la création de normes et de la normalisation du fonctionnement du corps. Un corps en fait, alors il y a des normes qui existent, qui sont dans la moyenne, mais tout le monde n'est pas dans la moyenne. Et déjà, toutes les femmes n'ont pas leurs règles. Il y a des hommes qui ont leurs règles. Il y a des femmes qui ont leurs règles de manière extrêmement, enfin des gens qui ont des règles de manière extrêmement irrégulière. Il y en a qui ont de l'endométriose. Il y en a qui ont la ménopause, parce que là on parle beaucoup de cas de figure dans lesquels de jeunes femmes. Mais il y a un moment dans la vie d'une femme où on n'a plus ses règles. Et ça, ces applications ont énormément de mal à prendre en compte ces cas de figure. Et même des cas de figure assez simples, comme peut-être que je suis lesbienne et peut-être que ou peut-être que j'ai jamais touché un pénis de ma vie, hein, et que du coup les questions de contraception me concernent moins, mais que d'autres me concernent davantage. Et typiquement, beaucoup de ces applications, c'est un truc tout con, hein, mais les logos pour dire j'ai eu des relations sexuelles, c'est genre une aubergine. Oui. Alors haha, ça fait rire, mais n'empêche que peut-être que moi, quand j'ai des relations sexuelles, j'en ai pas qu'une personne qui a un pénis, quoi. Effectivement, il y a des clichés poussiéreux où on imagine que l'expérience du cycle au travers de j'ai mes règles à la fin du cycle et au milieu, il y a mon ovulation et genre, il ne se passe pas autre chose. Je parlais du travail de Marion Coville. Marion Coville, elle parle beaucoup, par exemple, elle le dit, elle est atteinte d'endométriose et elle explique...
On peut peut-être expliquer ce que c'est l'endométriose pour ceux qui ne connaissent pas le terme.
Je ne suis pas spécialiste du sujet, malheureusement, mais en gros, l'endométriose, c'est une maladie dont sont atteintes des personnes atteintes d'utérus qui leur apportent des très très fortes douleurs et souvent des règles extrêmement irrégulières lors de leur cycle. Donc typiquement, ce genre de personnes ont besoin de suivre de manière assez régulière leurs douleurs, en fait, pour savoir un peu comment les soulager, quand prendre des médicaments, etc. Et la plupart des applications, en fait, de Menstrutech gère assez mal la douleur. En gros, on peut signaler la douleur, mais genre les crampes de règles assez classiques ou la douleur au sein ou des trucs assez banals, quoi. Donc, aucune prise en compte de la douleur, assez peu de prise en compte de d'autres sexualités. On parlait de l'exemple de la journaliste du New York Times qui a fait une fausse couche. Quand on utilise une application, un algorithme, l'algorithme pour fonctionner a besoin de données. Donc, j'ai besoin de produire de la donnée pour que l'algorithme comprenne mon fonctionnement, ma vie, mon corps, etc. La plupart de ces applications ne propose pas de données négatives. Par exemple, je ne peux pas dire j'ai fait une fausse couche ou j'ai eu un avortement. Et typiquement, si tu utilises une application de Menstrutech, que tu tombes enceinte et que tu as envie d'avorter, il y a de fortes chances pour que ton application, pendant 3 mois, elle te dise tous les jours « Hey, t'as pas tes règles ? Hey, t'as pas tes règles, c'est normal. Hey, t'as pas tes règles, t'es peut-être enceinte. » Alors que tu le sais très bien que t'es enceinte et que c'est peut-être un événement difficile pour toi et que t'as pas envie d'y penser. Et le jour où t'as un avortement qui est généralement un événement qui a tendance à décaler le cycle menstruel, l'application va pas comprendre. Et parce que je peux pas lui dire, en fait, je peux pas lui dire j'ai eu un avortement, j'ai eu cet événement qui sort de la norme et qui fait que mon application ne me comprend plus. Ce qui est intéressant dans les Menstrutech, c'est que tout n'est pas noir. Hein, je pense que les applications de Menstrutech sont assez... peuvent être utiles en tout cas pour les personnes qui ont des cycles assez réguliers, qui ont des expériences plutôt dans la norme, mais c'est pas suffisant en fait. Et qu'on a besoin d'une. On a eu la première étape où il y avait rien, la seconde étape où il y a eu les applications qui se sont lancées, la troisième étape où les GAFA s'y sont mis. Et maintenant, c'est aux utilisateurs, aux utilisatrices de vraiment se réapproprier ces outils si on en sent le besoin. Parce qu'il y a des gens qui s'en foutent, hein, qui veulent pas parler de leurs règles sur leur smartphone. Alors, il y a des applications, il y a des outils open source. Alors, les open source, c'est des logiciels libres qui donc sont réutilisables, modifiables gratuitement et librement. Donc, il y a un projet qui s'appelle Periodicals qui est accessible actuellement sur Google Play et que vous pouvez bidouiller tout seul via GitHub. Et après, il y a aussi des personnes qui essayent de hacker vraiment la Menstrutech. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que pour hacker quelque chose, t'as pas forcément besoin de compétences techniques très importantes. Ça peut vraiment juste être un
usage alternatif pas prévu, on va dire, par l'application.
Ouais, voilà. Ça peut juste être, tu ouvres une feuille Excel et tu mets, et tu codes ton propre algo, en fait. Tu dis, voilà, j'ai repéré que mes règles, je les avais à peu près tous les temps et puis ça fait le même taf, quoi. Donc c'est
peut-être que la quatrième révolution des Menstrutech arrivera des utilisateurs et utilisatrices.
Voilà, peut-être via les personnes qui nous écoutent. Mais non, clairement, j'y crois, j'espère, parce qu'encore une fois, on en revient à l'avenir de la santé connectée et je pense qu'on a besoin de s'intéresser à la santé connectée et à la manière dont on est en train de donner nos données les plus intimes à des entreprises qui sont pas, je pense pas toutes mal intentionnées, hein, mais ça reste des entreprises qui ont des modèles économiques, il faut vraiment s'interroger sur le sujet.
Merci beaucoup, Lucie.
Merci.
Pour un suivi régulier du sujet, je vous invite à aller faire un tour sur Twitter et à vous abonner au compte de Lucie Ronfaux, que je remercie pour ses réponses, et qui donc tient sur la plateforme, on en parlait au début de cet épisode, une veille régulière sur la Menstrutech et les questions qui y sont liées. Vous y retrouverez toutes les applis et les travaux de recherche que nous venons d'évoquer, ainsi que de nombreuses autres infos, car le sujet est vaste, très vaste. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B @binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
Binge.
Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi? Qui étaient ces disparus? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée? Le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.